RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Dur d'être un bébé. Bon, vous connaissez cette chanson de Jordi. Eh bien, nous, ce matin, on va plutôt dire dur d'être un parent. C'est vrai que beaucoup de familles se sentent démunies dans l'éducation de leurs enfants et ne savent pas quelles sont les bonnes attitudes à avoir. Alors, pour les aider et pour permettre aux enfants de grandir dans des familles apaisées, la Fondation Apprenti d'Auteuil a mis en place de nombreux programmes de soutien à la parentalité que nous allons vous présenter jusqu'à 11h ce matin dans Je pense, donc j'agis. Soyez les bienvenus dès maintenant pour réfléchir, pour penser avec nous. D'après vous, qu'est-ce qui devient difficile dans l'éducation des enfants en 2022? Est-ce que vous pensez que les parents ont besoin d'être soutenus aujourd'hui? Et surtout, comment les soutenir? On vous attend à l'antenne au 04 72 38 20 23. Vos messages à direct@rcf.fr et dans le groupe Facebook Je pense, donc j'agis.
Jusqu'à 11h, Je pense, donc j'agis sur RCF.
Avec Stéphanie Gallet, rédactrice en chef culture et société. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Melchior, bonjour à tous. Aujourd'hui, vous l'avez dit Melchior, avec Apprenti d'Auteuil, on s'engage aux côtés des parents. Alors vous avez cité Jordi, Melchior, je citerai Stromae, chacun ses références. Hein. Tout le monde sait comment on fait des bébés, personne ne sait comment on fait des papas. Au-delà des pères, je crois qu'on peut élargir cette idée à l'ensemble des parents. La naissance est une aventure incroyable, mais lorsque l'enfant paraît, la relation parent-enfant n'est pas toujours évidente. Et plus l'enfant grandit, et plus les choses se compliquent. Les injonctions sont multiples, et beaucoup de parents, vous l'avez dit, se retrouvent désemparés face à leur progéniture. Des difficultés qui sont d'autant plus importantes que les parents sont isolés, en situation de fragilité ou de précarité économique. Et que fait-on pour ces parents ? Car l'éducation est un enjeu vital de notre société. Et si nous partageons ici, dans cette émission, la conviction que les parents sont les premiers éducateurs des enfants, pas les seuls bien sûr, mais les premiers, un petit coup de main, une épaule amicale, quelques conseils bienveillants ne sont jamais inutiles. Il nous faut prendre soin des parents pour que les enfants grandissent dans un cadre familial structurant. On n'est pas parent, on le devient. Et avec nos enfants, c'est tous les jours qu'on apprend à être ajusté. Il n'y a pas de parents parfaits, proclame YAP, une belle émission sur RCF, vous allez en parler. Pas de parents parfaits, juste les meilleurs parents possibles qui font de leur mieux pour être chaque jour à la hauteur de la promesse que sont leurs enfants.
Et on en discute, Stéphanie, avec nos trois invités qui nous accompagnent dans cette première partie.
Allez, je vais commencer par celle qui est juste à côté de moi. Pascale Lemaire-Tocquec, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice des ressources éducatives, des études et de l'accompagnement métier. C'est compliqué comme titre. Hein,
un petit peu.
Chez Apprenti d'Auteuil. Donc vous allez nous parler d'Apprenti d'Auteuil et de son engagement auprès des parents. Apprenti d'Auteuil s'occupe des enfants. Et comment vous en êtes arrivée à vous occuper des parents? Vous nous expliquez le lien?
Alors évidemment, il y a un lien tout à fait naturel. Vous l'avez mentionné il y a quelques instants. Apprenti d'Auteuil s'occupe des enfants depuis plus de 150 ans. Derrière chaque enfant, il y a des parents. On pense, comme vous l'avez dit, que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Et en tant qu'œuvre éducative, depuis 150 ans donc, on ne peut pas intervenir auprès des enfants sans les parents. Donc ça, on en est persuadé, et on en est encore plus persuadé depuis, je dirais, une grosse vingtaine d'années où on a mis ce sujet-là, la question de l'accompagnement des familles, de leur soutien, du travail avec eux sur les questions de parentalité au cœur de notre mission. Parce qu'on s'est évidemment rendu compte qu'en accueillant des enfants, qui étaient des enfants de familles en situation de fragilité, on avait absolument besoin d'aller au-delà, de travailler sur des questions de prévention et que pour cela, il nous fallait intervenir auprès des familles.
Et on va en parler dans cette émission. Merci beaucoup Pascale Lemaire-Tocquec d'être avec nous ce matin. Autre invité dans cette émission, Elisabeth Michel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la coordinatrice Bonjour. Des maisons des familles de la région Auvergne-Rhône-Alpes et vous êtes aussi la fondatrice de la maison des familles à Grenoble. C'était en 2009. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'intuition que vous avez eue en 2009? Pourquoi une maison des familles?
En fait, c'est une intuition partagée par Apprenti d'Auteuil et le Secours catholique suite à différentes rencontres. On le savait, mais on l'avait jamais vraiment acté, que la question de la précarité pouvait impacter lourdement sur l'éducation des enfants. Et donc, en 2009, on a souhaité, Apprenti d'Auteuil et le Secours catholique, partager nos expertises, Apprenti d'Auteuil sur la question de l'éducation, comme vous l'avez évoqué, et le Secours catholique sur la question de l'accompagnement des personnes en situation de précarité. Et c'est cette réflexion commune qui nous a amené à ouvrir donc cette maison à Grenoble qui était en 2009 un peu expérimentale et qui aujourd'hui s'est largement déployée sur l'ensemble du territoire français en Outre-mer. Donc un lieu pour accompagner des parents en situation de précarité dans l'éducation de leurs enfants.
Merci beaucoup Elisabeth Michel d'être avec nous aujourd'hui. Dernière invitée dans cette première partie de Je pense donc j'agis, Sonia Benmaha, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une maman, je crois que vous avez une jeune fille de 12 ans. Vous êtes investie depuis plus de 10 ans à la Maison des Familles de Marseille. Aujourd'hui, vous portez, je crois que ça fait une dizaine d'années, vous portez aussi la voix des familles au Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Je vais vous demander de nous faire une carte postale. Elle ressemble à quoi, la Maison des Familles à Marseille ?
Oula, bah c'est une maison où on est tous en famille, en fait. C'est, en fait, si je vous le décris trop bien, vous allez vouloir tous venir. En fait, la Maison des Familles, c'est un lieu de sociabilisation. En fait, c'est un lieu où on se rencontre, où on est bienvenu avec nos enfants. Un endroit où on est accueilli avec ou sans nos enfants, où on peut partager sur... les difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien. Mais on peut venir juste passer un bon moment aussi, passer un temps avec d'autres personnes et surtout échanger dans la bienveillance sur comment on trouve nous-mêmes des solutions en nous-mêmes pour faire bien. Parce qu'en fait, même si parfois on rencontre des situations de précarité, on est quand même des experts de nos enfants.
Ouais. Sonia Benmaha, deuxième question. Le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, qu'est-ce que c'est ?
Alors, je siège au CNLE, donc c'est le Conseil national de lutte contre l'exclusion et la précarité. C'est rattaché en fait au Premier ministre. Et en fait, on est mandaté pour 3 ans. Ça s'arrête bientôt. Et en gros, dans le principe, ça serait pour moitié, nous sommes des personnes concernées dans le CNLE et le reste étant, en gros, ça peut être des politiques, ce sont des élus, des associations, des patrons, des syndicats. Et en fait, tous ensemble, on essaye de discuter, de savoir comment faire en sorte que d'aider les gens dans la précarité, qui sont en situation de précarité. Et le principe étant qu'en ayant des personnes concernées, on sait mieux ce dont on a besoin et on est plus capable de voir si quelque chose va fonctionner ou pas et les priorités. En fait, le principe, c'est de remettre l'individu au centre du débat et non plus des chiffres, mais plus des situations et des personnes réelles, rendre réelles les choses.
Et vous avez l'impression que c'est vraiment efficace, que ça sert vraiment à faire avancer les choses ?
On avance petit à petit et après on fait des préconisations, on a des groupes de travail. Vraiment, pour ma part, en tout cas, on est beaucoup à s'investir là-dedans. Et c'est vrai que si j'y croyais pas, je le ferais pas.
D'accord. Merci beaucoup Sonia Benmaha d'être avec nous ce matin.
Merci à tous les trois de nous accompagner dans cette première partie. Vous avez la parole, je le rappelle, au 04 72 38 20 23 pour participer aux émissions. Dites-nous si c'est difficile d'après vous d'être un parent en 2022 et pourquoi il est important d'être soutenu aujourd'hui et surtout comment soutenir les parents. 04 72 38 20 23. Stéphanie, on peut y aller ?
Eh bien oui, on commence. Sonia, je peux commencer par vous poser la première question. Sonia Benmaha, maman, qu'est-ce qui est compliqué pour vous et pour les mamans que vous rencontrez et de façon générale, aujourd'hui, en 2022, quand on élève un enfant ou plusieurs enfants ?
Pour ma part, je sais que je suis maman seule et je suis avec ma fille. Et en fait, c'est surtout... on remet beaucoup de choses en question. On se demande même si on fait les choses bien. Après, je pense que c'est compliqué déjà en général d'être parent parce que ben, on veut faire au mieux, mais parfois on peut se tromper, parfois on n'est pas sûr de nous et c'est compliqué dans le sens où c'est pas une science exacte et il faut arriver avec l'expérience d'autres, d'arriver à faire au mieux pour nos enfants.
C'est pas une science exacte, Elisabeth Michel, vous confirmez ?
Ah, Elisabeth Michel, on ne vous entend pas. Elisabeth Michel, qu'on va réentendre, j'espère.
Ah oui, complètement, quand j'entends Sonia dire cela, bien sûr. Alors.
Ouais, il y a quelques problèmes de connexion avec Elisabeth.
Est-ce que vous m'entendez ?
Oui, on vous écoute même. Allez-y.
Non, des problèmes de connexion avec Elisabeth Michel qu'on va reprendre par téléphone pour une liaison plus stable, hein, Stéphanie. Ça nous arrive en direct.
Pascal Lemaire-Tocquet, je vous pose la question à vous. En 2022, qu'est-ce qui est compliqué pour les parents de façon générale dans l'exercice de la parentalité pour élever leurs enfants ?
Déjà, ce qu'on peut dire, c'est pour vraiment situer le niveau du sujet, c'est qu'on a fait une étude en 2019 avec BVA auprès des parents et que 62% d'entre eux nous ont dit que c'était compliqué d'élever leurs enfants. Donc il s'agit vraiment d'un sujet qui touche tout le monde.
Est-ce que c'est une question qu'on se posait il y a 30 ans, par exemple ? Est-ce qu'il y a 30 ans, il y a 40 ans, on se disait c'est compliqué d'élever des enfants ?
Je pense qu'on s'est toujours posé cette question.
On s'est toujours posé cette question.
Moi, je pense qu'on s'est toujours posé cette question-là et qu'il y a toujours eu ce fossé entre les générations qui fait que, en tant que parents, on se pose toujours plein de questions.
Mais c'est quand même pas plus compliqué aujourd'hui ?
Aujourd'hui, il y a des facteurs qui rendent le sujet plus compliqué. Il y a les questions de garde d'enfants. Pour les tout-petits, quand on est et qui évidemment s'aggrave quand on est une maman ou un papa seul. Donc ça, on le sait. Les questions de garde d'enfants sont compliquées. Le rapport à l'école s'est complexifié. Le rapport au numérique qui nous perturbe tous et toutes en tant que parents quand on voit nos enfants sur les écrans. Et là aussi, de gérer ce sujet-là quand on est dans une situation plutôt facile en étant accompagné. On arrive à surmonter la difficulté. Quand on est seul face à ça, quand on a des horaires de travail décalés, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Donc il y a toutes ces questions de garde d'enfants, d'école, de rapport au numérique qui ont beaucoup transformé les relations, et à la fois entre parents et enfants, mais aussi au sein de la société. Et ce qu'on entend, ce que les parents nous disent, c'est qu'ils se retrouvent souvent seuls face à des difficultés. Quand la difficulté apparaît, elle peut apparaître à n'importe quel moment de la vie, sur un problème de santé, sur un problème d'éducation, sur un problème de décrochage scolaire, etc. Et là, les parents se retrouvent seuls face à ça et ont besoin de soutien, quelle que soit leur situation.
Elisabeth Michel, je vous redonne la parole. Je crois que la liaison est rétablie.
Je voulais d'abord rebondir effectivement sur ce que disait Sonia Benma tout à l'heure, en fait, sur que effectivement la question d'être parent, c'est pas une science exacte, et souvent ça s'apprend en marchant. Simplement, je pense qu'aujourd'hui le monde a changé et les parents sont globalement soumis à une sorte de double injonction de perfection et de performance. En fait, on demande, et le Sonia le disait bien tout à l'heure aussi, en fait, d'être de bons parents. Et en fait, je ne suis pas sûre qu'on sache vraiment qu'est-ce que ça veut dire être un bon parent. Et il y a cette volonté-là pour chaque parent, en fait, d'agir au mieux pour son enfant. Comme le soulignait aussi Pascal Lemaire-Tocquet, le monde s'est complexifié. Et aujourd'hui, en fait, parents, la question est aussi celle de la multiplicité des repères. Vous avez en famille un certain nombre de principes, de valeurs. Votre enfant va à l'école, il va rencontrer le monde extérieur et d'autres principes, d'autres valeurs. Et ensuite, la question effectivement du numérique, des réseaux sociaux, complexifie énormément la tâche des parents. Et comment on fait ? Je pense que cette question-là, chaque parent, en fait, qu'on soit en situation de précarité ou pas, en fait, on se la pose. Enfin, comment aujourd'hui on peut éduquer au mieux son enfant ? Et là, souvent, n'importe quel type de parent, en fait, on peut être soumis à des difficultés et parfois à de graves difficultés parce que c'est compliqué.
Sonia Benmaha, un mot peut-être sur cette dictature des écrans que subissent les parents et avec lesquels ils ont bien du mal à faire face et avoir un peu d'autorité sur les enfants. Comment vous réglez ça ? Qu'est-ce que vous dites les parents qu'est-ce que vous en dites les parents que vous côtoyez ?
Alors on n'a pas tous le même rapport aussi à l'écran en tant que parents. Je pense sincèrement que, bah, après, on fonctionne pas tous pareil. Je pense que ça, c'est tous les parents, pas forcément ceux qui sont en difficulté, enfin, qui rencontrent des difficultés. Mais c'est vrai que beaucoup de parents, en fait, vont avoir la simplicité parce que, bah, du coup, là, quand le lieu se prête pas à faire des sorties extérieures, quand la personne elle a des difficultés à mettre ses enfants en vacances, quand la personne elle a peut-être des complications pour emmener son enfant à droite et à gauche, ou à faire des sorties extérieures, ou parfois ne serait-ce qu'à avoir, ben, y a aussi des différences chez les différentes familles qui va faire que, ben, il y en a qui jouent pas beaucoup avec leurs enfants non plus. Et c'est aussi la simplicité, c'est de se dire, ouais, mon enfant, je lui permets peut-être pas d'aller faire Disney, mais bah, il va regarder Disney Channel, quoi. Donc c'est pas terrible, mais j'en ai conscience, mais c'est aussi un lieu de sociabilisation, notamment les réseaux sociaux. Ça, moi, j'ai vraiment très peur de ça. Notamment, bon, après, moi, je suis même un peu stricte, hein. Donc c'est vrai que les écrans, je veille au grain. J'ai, grâce à la halte, hein, enfin, grâce à Maison des Familles, j'ai mis des filtres parentaux partout. Et du coup, c'est vrai qu'elle peut pas aller trop loin. Pendant un certain, enfin, j'ai tout limité en heures et en chaîne. Enfin, tout est géré à la maison. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Un enfant, il va trouver plus facilement la télécommande que...
Ouais. Enfin, ils savent souvent mieux s'en servir que nous.
Ah oui.
Pascal Lemaire, ton cas, c'est pas la difficulté principale aujourd'hui, ça, cette question du rapport aux écrans, de l'inégalité dans la maîtrise de l'outil numérique?
Je dirais pas forcément que c'est la question principale, mais c'est une question. C'est une question qui nous est souvent posée, c'est une question qui revient même dans les lieux où, évidemment, Apprenti d'Auteuil accueille des enfants. C'est une question assez générique sur laquelle nous aussi, on essaye d'avancer. Et Sonia l'a bien dit, hein. Ça nous interroge, nous aussi, en tant qu'adultes, en tant que parents, sur notre propre rapport au numérique. Bien C'est-à-dire sûr, ouais. Qu'est-ce qu'on montre à nos enfants de ce qu'on fait, et du coup, comment on peut eux-mêmes leur permettre d'avoir une distance, un regard critique sur tout ce qui se passe sur ces écrans. Donc ça, je pense que c'est un sujet générique pour tous ceux qui sont en position d'éducation, évidemment les parents en premier chef.
C'est vrai que c'est intéressant, cette question du rapport aux écrans, c'est qu'elle concerne tous les parents, quel que soit le milieu social. Il y a cette question du contrôle parental que Sonia essaye de mettre en place pour sa jeune fille. Je voudrais maintenant qu'on s'intéresse aux questions qui sont accentuées par la précarité. Et Elisabeth Michel, qu'est-ce que ça rajoute, le fait d'être en situation de précarité, de fragilité sociale? Qu'est-ce que ça rajoute comme difficulté dans l'éducation de ses enfants?
En fait, les questions sont identiques, comme ce qu'on vient de le dire, sauf que souvent ces parents soit vivent dans des conditions, par exemple, d'habitat compliqué. On l'a vu durant la crise du Covid, hein, que quand on vit dans un appartement exigu, eh bien c'est compliqué. En fait, la relation avec ses enfants, ça la rend beaucoup plus compliquée. Et aussi parce que la question de la précarité, en fait, abîme les parents dans l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et dans le sentiment, enfin, qu'ils sont, qu'ils peuvent être de bons parents, qu'ils peuvent pouvoir avoir une action juste et adaptée par rapport à leurs enfants. La précarité, souvent, en fait, ces parents-là ont intériorisé profondément un sentiment de disqualification sociale. Et aussi intérioriser un sentiment de disqualification sociale comme parents. Ils ont toujours le sentiment de ne pas être de bons parents, de ne pas être des parents à la hauteur. Et encore, dans leur situation, ils ont peut-être plus de difficultés aussi à pouvoir en parler avec d'autres. Parce que ils ont peur. Ils ont peur du contrôle social. Ils ont peur qu'on intervienne de façon, alors réelle ou pas d'ailleurs, hein, mais qu'on intervienne au sein de leur famille en les jugeant, en les évaluant. Et c'est une des raisons qui nous a amené, Apprenti d'Auteuil et le Secours catholique, à ouvrir des maisons des familles.
Il s'agit de redonner confiance en eux à ses parents ?
Il s'agit de redonner confiance aux parents, il s'agit aussi d'entendre la parole de ces personnes-là et d'apprendre de leur expérience. Parce qu'ils ont, à ce sujet-là, un certain nombre une expérience, parce qu'ils ont tricoté le mieux qu'ils pouvaient dans les situations dans lesquelles ils se trouvaient. Et donc, nous avons à entendre et à apprendre de ces expériences-là pour pouvoir aussi s'enrichir mutuellement de ça et progresser ensemble.
Cette expression, ce sentiment de disqualification sociale, c'est terrible, Pascal Lemaire-Tonquec.
Oui, effectivement, c'est terrible. Hein.
Ça se traduit comment ?
Et Elisabeth l'a bien dit, ce sont des parents qui, de ce fait, ont peur, craignent qu'on leur retire leurs enfants.
C'est ça, la peur de remplacer son enfant.
Il y a cette peur-là. Il y a la peur, Sonia l'a dit tout à l'heure, il y a la peur de mal faire au quotidien, de se dire est-ce que c'est bien comme ça que je dois faire, est-ce que je dois traiter ce sujet de cette manière-là. Il y a aussi tout le rapport à l'école qui est souvent assez bouleversé et donc la crainte aussi, si soi-même on a eu des difficultés à l'école, de la relation avec les enseignants. Donc il y a tout un ensemble de choses qui ont trait à l'éducation sur lesquelles on ne se sent pas en sécurité et sur lesquelles finalement on a l'impression qu'on a les mauvais repères et parce qu'on vous fait sentir que peut-être vous avez les mauvais repères. Donc ça, il y a tout ce travail qu'a cité Elisabeth dans les maisons des familles vise justement à aller à l'encontre de ce sentiment et à redonner à ces familles la capacité de penser que ce qu'elles font, c'est bien. Et qu'il n'y a pas une seule manière de faire, il n'y a pas une seule manière d'être parent, il n'y a pas la bonne ou la mauvaise. Il y a tout un tas de manières d'être parent et que c'est en discutant, on parlait du numérique il y a deux minutes, c'est en partageant des pratiques. Sonia a dit sa pratique, comment elle faisait avec sa fille. Ce qui est intéressant, c'est que des parents à côté d'elle puissent dire la leur, qu'une personne qui travaille au sein de la maison des familles puisse partager aussi de la même manière et que comme ça, on se rende compte, il y a plusieurs manières de faire et je peux peut-être à un moment donné utiliser une autre manière que celle que j'ai l'habitude de faire. C'est pas bien ou c'est mauvais, c'est simplement une palette d'actions possibles sur lesquelles je peux me rendre compte que moi aussi, je peux utiliser d'autres manières de faire.
Et surtout, il faut se dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas un compte en banque bien fourni qu'on n'est pas un bon parent.
C'est clair.
C'est clair, hein.
Je crois que c'est très, très clair. Malheureusement, effectivement, c'est ce que disait
Ça Elisabeth. Devrait être une évidence, mais ça ne l'est pas.
Voilà. Ça devrait être une évidence, mais ça ne l'est pas.
Sonia Benmaha, ce manque de confiance en soi, c'est quelque chose que vous connaissez chez les mamans et peut-être qu'il y a aussi des papas, on parle des mamans, peut-être qu'il y a quelques papas qui fréquentent la maison des familles de Marseille.
Oui, on a la chance d'en avoir quelques-uns. Après, je vais juste revenir sur du coup, c'est ce qui a été dit. Vous savez, je suis partie du CNLE et on a eu des présentations, des auditions de personnes qui arrivent bien à comprendre les chiffres, qui font des statistiques et tout ça. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai compris d'où venait mon insécurité régulièrement par rapport à mon rôle de parent. C'est qu'en fait, pour les enfants dont les parents vivent, famille monoparentale, il y a moins de chances de s'en sortir. Pour les familles qui sont dans des quartiers défavorisés, il y a moins de chances de s'en sortir. En fait, au fur et à mesure, on cumule les mauvais points, entre guillemets. Les statistiques, elles sont atroces quand on parle des familles qui ne sont pas dans des écoles privées, quand ils sont pas, quand les enfants, les parents n'ont pas eu de diplôme. Il nous montrait, enfin, honnêtement, il me montrait des tableaux et je comprenais. Je me suis dit, mon Dieu, mais c'est pas possible. Je les cumule, les tares, entre guillemets. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Et en gros, moi, tout ce que je veux, c'est faire mentir les statistiques. Ma fille, elle s'en sortira. Et en fait, c'est un peu le rôle de tous les parents. On veut tous que nos enfants, ils s'en sortent. On veut tous que nos enfants aient une belle vie. Après, ce qui se passe, honnêtement, moi, je vais aussi revenir sur ce qui se passe à la maison des familles. C'est qu'en fait, c'est un endroit où on est écouté, un endroit où on peut échanger. Mais on nous a jamais dit, il faut que tu fasses ça. Ça a toujours été, moi, j'ai fait comme ça, ça a fonctionné pour moi. Ou alors, moi, j'ai fait ça, ça ne marche pas. Vous, qu'est-ce que vous faites ? Et c'est, pour moi, j'ai fait ça, ça fonctionne. Il n'y a jamais eu de jugement, il n'y a jamais eu de... On ne nous a jamais fait la morale. Par contre, un truc qui est super dans les maisons des familles, enfin, notamment à la Halte, à Marseille, c'est que c'est aussi un endroit où on peut exprimer des besoins. je m'explique. Maintenant, moi, je vais à la famille, maison de famille depuis que ma petite elle a un an et demi. Maintenant, elle en a 12. Les besoins ne sont pas du tout les mêmes, notamment face aux écrans, face à la scolarité, face à l'évolution d'un ado, physique, l'affection et tout ça. Il faut être déjà à l'aise en parler, nous, pour pouvoir en parler après avec nos enfants, pour avoir un accompagnement, pour être le soutien nous-mêmes de nos enfants. Parce que bon, c'est un peu nos, enfin, on s'est créé des racines, nous, à la halte. Et du coup, c'est un petit peu ça aussi. C'est quand, on a cherché, si nous, on n'y arrivait pas seul, avec la maison des familles, on a réussi à trouver des intervenants qui sont venus, qui ont discuté avec nous, qui nous ont aidés à comprendre certaines choses. Parfois, c'est juste le fonctionnement physique. Parfois, les écrans, ça a été des intervenants qui nous ont expliqué le danger des écrans sur les enfants jeunes. Enfin, il y a eu beaucoup de choses. En fait, mais c'est vraiment un endroit où on est soutenu, mais c'est aussi un endroit où on peut exprimer des besoins, ne serait-ce que pour aller à l'école et avoir quelqu'un qui va nous aider, nous soutenir, parce que se retrouver face à un professeur qui va nous dire « oui, mais il faut faire ci, oui, mais il faut faire ça », mais alors que parfois on a des difficultés, ne serait-ce qu'à aider l'enfant à faire les devoirs. Donc tout ça, en fait, c'est tout au long, en fait. C'est vraiment... Oui, excusez-moi.
Non, au contraire,
Désolée, je parle trop, je vous ai dit que vous aviez le droit.
Non, vous parliez pas trop. Je voulais juste revenir sur une belle expression que vous avez utilisée. Je voudrais que vous nous expliquiez ce que vous entendiez par là. Vous avez dit, à la halte, on s'est créé des racines.
Oui. C'est-à-dire quoi ? Il s'avère... Et en fait, même si ma famille habite pas super loin, en fait, je suis pas proche de ma famille. Et en fait, j'étais isolée, j'étais seule. Et j'ai pas forcément la possibilité de me rapprocher facilement de ma famille. Et en fait, j'avais personne. Et j'ai trouvé ça à la halte. Et souvent, quand vous venez à la maison des familles, enfin en tout cas à la halte, c'est quoi la halte ? C'est la famille, quoi. On est tous ensemble. On se voit parfois à l'extérieur aussi. On se crée des liens entre nous. Et un lien de soutien aussi entre parents. Et du coup, voilà, c'est... Ma fille, elle appelle les mamans et les papas de la halte, les tatas et les tontons de la halte, quoi.
Allez,
parce que c'est la famille.
On va marquer une petite pause dans Je pense, donc Gégé, on a encore plein de choses à se dire ce matin. Avec nos trois invités, avec vos témoignages également au 04 72 38 20 23, venez nous parler de parentalité, peut-être des difficultés que vous avez pu rencontrer et pourquoi il est important en 2022 plus que jamais de soutenir les parents dans leur rôle. 04 72 38 20 23, à tout de suite. Allez, 9h31 sur RCF, on ne va pas écouter Jordi ou Stromae, mais on va écouter un jeune artiste qui s'appelle Baptiste Ventadour, qui a sorti son album vendredi dernier, qui sera l'invité de Bérangère Lou demain dans Tout Doux à 17h. Voici son premier single à 7 étoiles.
Pourquoi devrais-je croquer la vie? Et à quoi bon si mes envies ou si elles-mêmes ne me mènent nulle part? Le temps est imparti et l'infini s'enfuit ailleurs. C'est pas trop tard mais je suis coincé quelque part. J'ai pas la chance du débutant. Je reconnais que trop souvent j'ai pris du retard pour en boire une dernière au bar. Y'a tant de place dans mes bagages. Il est si long le démarrage. Pas de plan, dis-moi qu'on sera jamais grand. Et puis toi, dis-le-moi, si je ne fais rien de moi, qu'est-ce que je pourrais bien lui dire à cette étoile qui me regarde d'en haut et qui me suit? Qu'est-ce que je pourrais bien lui dire à cette étoile qui me regarde d'en haut et qui me suit? Comme toi, je veux refaire la peinture, même si je sais qu'on va dans le mur, fuir le passé sans laisser mon âme en chantier. Ton secret, dis-le-moi. Tu sais, même si tu te démènes, ma belle Maïwenn, quoi qu'il advienne, c'est deviné, même les fontaines seront vidées. Moi je vis de paresse, de soir, d'été, de nuit, d'ivresse, faut m'activer, je t'en prie, me laisse pas tomber. Et puis toi, dis-le-moi, si je ne fais rien de moi, qu'est-ce que je pourrais bien lui dire à cette étoile qui me regarde d'en haut et qui me suit? qu'est-ce que je pourrais bien lui dire à cette étoile qui me regarde tant et qui me suit et qui me garde. Je sais que je semble un peu égaré, que je me plains, que je fais rien, mais prends ma main, reste jusqu'à demain matin. C'est les années qu'il faut laisser faire, et ça me fait peur, mais c'est pas l'heure de se coucher. Laisse-moi t'en payer un dernier, et t'aimer, et t'emmener loin. Car si je vis pas près de toi, qu'est-ce que je pourrais bien lui dire à cette étoile qui me regarde d'en haut et qui me suit? Qu'est-ce que je pourrais bien lui dire à cette étoile regarde tant et qui me suit et qui me garde et qui me garde et qui me garde.
Baptiste Ventadour sur RCF à 7 étoiles.
Je pense, donc j'agis avec Melchior Gormand et Stéphanie Gallet.
Avec nos trois invités, Pascal Lemaire-Tocquec, directrice des ressources éducatives et études accompagnement métier pour apprentis d'Auteuil. Elisabeth Michel, qui est la coordinatrice des maisons des familles en Auvergne-Rhône-Alpes et la fondatrice de la maison des familles à Grenoble. Et puis Sonia Benmaa, qui nous accompagne également de la maison des familles de Marseille. Je vous lis un petit témoignage, Stéphanie, d'une personne qui s'appelle Stéphanie, d'ailleurs. Je n'invente rien, mais c'est pas vous.
C'est quelqu'un de bien.
Ouais. Je suis maman de deux petits garçons, 10 mois et bientôt 3 ans. Attendez, laissez-moi parler, sinon je ne vais pas y arriver. On veut faire le mieux pour nos enfants, on veut leur offrir le meilleur. Je me rends compte que nos enfants ressentent beaucoup de choses, nos émotions, les tensions qui peuvent exister dans l'entourage. Et je me rends compte aussi que nos enfants comprennent beaucoup de choses et apprennent rapidement. Ils nous imitent dans les moindres détails, répètent exactement nos mots, nos phrases. C'est leur manière d'apprendre. Je me dis donc que nous devons être exemplaires pour nos enfants. Quand j'en ai pris conscience, j'ai eu peur. Je me suis dit que je ne serais jamais à la hauteur. Mais peu à peu, je me suis dit que cela devait nous tirer vers le haut pour nous aider à faire de notre mieux sans chercher la perfection. Alors, est-ce que vous auriez pu signer ça, Stéphanie?
Je crois que je comprends bien ce qu'elle ressent, là. L'injonction à être la meilleure des mères et on n'y arrive pas.
Ouais.
Je sais, je vois bien. Une réaction, Sonia Benmaa?
Ah ben oui, ben forcément, on essaye de faire
aussi,
au mieux.
Vous signez.
Je signe et vraiment à fond. Là, c'est pas de souci, c'est ça. C'est exactement ça.
Elisabeth Michel, on a entendu Sonia tout à l'heure nous dire qu'elle s'était créée des racines à la maison des familles de Marseille, à la halte. Il y a souvent un problème de transmission, c'est-à-dire qu'entre les générations, il y a des ruptures et donc les mères n'aident pas leurs filles à devenir mères, etc., etc.
Alors je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Je ne sais pas si on peut dire que les mères n'aident pas leurs filles qui deviennent mères. Par contre, ce qu'on peut dire, enfin parce que ça a été largement étudié, en situation de précarité, on remarque aussi un sentiment de désaffiliation. C'est souvent des parcours qui sont marqués par des ruptures. Et quand j'entends Sonia Benmaa dire qu'effectivement elle a trouvé des racines ou elle s'est construite des racines à la maison des familles, c'est effectivement une des attentions qu'on peut avoir dans les maisons des familles, de permettre aux parents et aux enfants en fait de redévelopper un sentiment d'appartenance, d'abord d'appartenance à un lieu, ensuite d'appartenance à une société en fait, parce que souvent ces personnes-là sont des personnes invisibles et inaudibles. Et donc, aussi dans le cadre de l'éducation, c'est important que ces parents puissent faire l'expérience, en fait, qu'ils appartiennent à un monde plus grand que la cellule familiale. Et ça, c'est très aidant pour eux aussi.
Pascal Lemaire-Tonquec, Sonia Benmaa disait à la maison des familles, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut exprimer des besoins. C'est-à-dire que c'est un endroit où on peut parler, où la parole se libère. C'est un terme courant aujourd'hui, mais...
Alors c'est plus qu'un endroit où la parole se libère, c'est un endroit où on va chercher la parole des parents. Et je dirais plus globalement, parce que là, on a beaucoup parlé des maisons des familles, qui sont effectivement des lieux très emblématiques de ce qu'on veut porter comme, comme manière d'être avec les familles. Mais on peut se dire aussi qu'au sein de tous les lieux qui accueillent des enfants au sein d'Apprentis d'Auteuil, que ce soit l'école ou même les lieux de la protection de l'enfance, les lieux où on peut loger aussi des familles, des résidences sociales, par
exemple.
Il faut
conforter les parents
crèches,
à leur place.
On a à aller chercher la parole des parents. On a, et c'est ce qu'on souhaite faire, c'est ce qu'on fait au quotidien. On l'a fait très récemment dans le cadre justement du travail sur le plaidoyer d'Apprentis d'Auteuil. On est allé chercher la parole de 5000 jeunes et familles au sein d'Apprentis d'Auteuil et ailleurs pour comprendre effectivement ce qu'ils ont à nous dire. Sonia, elle, c'est très emblématique, le fait qu'elle soit là, et tout ce qu'elle dit est tellement révélateur effectivement de ce que ressentent les mères et les pères, vous l'avez dit aussi, même si là c'est une mère qui nous... On est plutôt des mères là autour de la table, mais néanmoins pour les pères c'est la même chose, il faut aller chercher cette parole-là et c'est ça qui nous permet de comprendre effectivement les besoins et de progresser ensemble. C'est vraiment extrêmement important, donc cette question de la participation des parents aux lieux dans lesquels sont accueillis leurs enfants et la participation des parents, évidemment, au sein des maisons des familles. Là, c'est de l'ordre de l'évidence, puisque c'est ce lieu-là qui le cherche.
Pour vous, le principal besoin de ces familles, c'est d'être reconnues dans leur rôle de famille.
Disons que c'est... Alors, il peut y avoir plein d'autres besoins.
L'économique,
de logement. On a abordé très rapidement la question de la garde d'enfants, les relations avec l'école. Donc, il y a plein de besoins de ce type-là. Mais c'est en étant reconnues, justement, dans leurs paroles et dans leurs besoins, que petit à petit, les familles qui sont en situation de fragilité vont pouvoir renouer ces liens-là. Et c'est au travers de cette question, de cette relation qu'on peut installer, au travers du... Elisabeth en a beaucoup parlé, au travers du faire ensemble, c'est-à-dire ne pas dire ce qu'il faut faire, mais plutôt faire ensemble, trouver des solutions ensemble, que effectivement on peut restaurer cette capacité à faire face à ces difficultés, on l'a dit tout à l'heure, auxquelles tous les parents font face forcément à un moment ou à un autre de leur vie.
Cet accompagnement à la parentalité, c'est le thème de notre émission au souci aujourd'hui. On sent que c'est une matière extrêmement délicate. Hein. Il faut y aller avec beaucoup de douceur. Comment on fait ? Enfin, c'est quoi la méthode ? Vous dites c'est faire ensemble, d'accord, mais concrètement ?
Alors, la méthode, effectivement, ça passe d'abord par l'accueil. On peut dire qu'on va, voilà, on accueille les personnes qui sont là. Ça passe par l'écoute, la capacité à entendre ce qu'elles ont à dire, on l'a dit. Ça passe par le fait de donner la parole, donc de faire participer. Et puis après, ça peut passer par des tas de petites choses à condition que les personnes aient décidé de le faire. C'est-à-dire, je crois que Sonia a fait référence tout à l'heure à jouer avec son enfant. Donc on peut faire en sorte qu'il soit possible de donner le temps à des parents qui ont peu le temps, qui sont confrontés à des difficultés quotidiennes qui leur prennent tout leur temps. Dans un espace donné, on peut se donner le temps de jouer avec son enfant et quelque part de se montrer à soi-même tout ce que ça peut apporter à soi-même et à son enfant. Donc ça passe par c'est ça, faire ensemble. Ça peut être faire un repas ensemble. Dans les maisons des familles, on fait, Elisabeth en parlerait beaucoup mieux que moi, on fait beaucoup de cuisine ensemble. On fait la cuisine, on mange à Marseille notamment, j'y suis allée plusieurs fois.
On
mange bien, oui.
C'est bien.
donc ça peut passer par des choses très concrètes de ce type-là. Et puis évidemment, au travers de tout ça, après on peut aborder les questions, on en a parlé, de l'école, de l'éducation, du numérique, etc., dans des lieux où finalement on a installé une parole qui permet d'exprimer difficultés, types de solutions, etc.
Elisabeth Michel, pour vous, quelle est la règle d'or dans l'accompagnement de ces familles ?
Alors, je ne sais pas s'il y a une règle d'or, mais la première chose que je voudrais dire, c'est de reconnaître le parent comme étant un parent qui a une expérience. Des fois, cette expérience, elle est un peu chahutée, par la vie, par le quotidien de la vie. Mais partir de cette conviction-là, l'autre, le parent, a une expérience, et cette expérience-là, est-ce que moi j'ai le goût de la connaître, d'échanger avec lui ? Ça, c'est la, pour moi, c'est un des premiers éléments. Et le deuxième élément, en fait, ce qui est beaucoup mis en avant aussi dans les maisons des familles, en fait, c'est cette notion de, et qu'on retrouve dans d'autres dispositifs, hein, c'est faire alliance avec le parent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, en fait, que le parent s'engage dans cette relation-là, mais que ça soit des professionnels, des bénévoles, ils s'engagent aussi dans cette relation-là. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous besoin de relations, en fait, authentiques et vraies, à partir desquelles on va pouvoir se dire un peu, dire un peu nos forces, dire nos difficultés et construire ensemble un bout de chemin. Alors, soit en tête-à-tête, soit dans un espace collectif. Ça me paraît être, pour moi, très important, ces deux notions-là. L'autre, le parent, a un savoir et une expérience, et moi, je m'engage dans la relation avec lui.
Sonia Belmara, il y a des moments où on a l'impression qu'on n'a plus de savoir, quand même.
Ben, là, en fait, c'est moi, quand j'entends tout ça, franchement, je suis émue. Après, c'est vrai qu'à la maison des familles, moi, quand on me dit maison des familles, j'entends bienveillance. Je sais que c'est un endroit où on n'est pas obligé de parler non plus. Ça peut être un moment où on ne va pas forcément super bien, on s'assoit, on boit un café. Ou alors, bon, après, on a des activités qui sont prévues, mais c'est plus des activités qui nous permettent parfois de sentir à l'aise. Qu'on fasse de la couture ou parfois c'est plus facile de discuter ou quand on fait autre chose, quand on n'a pas les yeux rivés sur quelqu'un ou quand ça peut être en fait tout est fait en sorte que la parole peut se libérer de la façon dont on le souhaite. Si on veut pas partager, on n'est pas obligé. C'est tout est fait dans le volontariat. On a envie d'y aller. Ma fille, par exemple, elle fait d'autres choses avec Auteuil, par exemple. Et par exemple, elle côtoie des enfants qui sont en Mex. Et il y a une différence, c'est qu'elle, elle choisit... Comment ?
Vous avez dit des enfants ?
Des enfants qui sont en Mex, c'est des enfants qui sont en maison, maison éducative à caractère social.
Caractère social, d'accord.
Voilà. Et en fait, et c'est vrai qu'ils lui disent, oui, mais toi, tu choisis... Enfin, en gros, elle choisit de venir à Auteuil. C'est pas une on n'est pas obligé de venir. Après, ça, en général, on est bien, on est contente de venir. Après, il y a des moments où ben, c'est comme dans toutes les familles, il y a des moments où on se prend la tête et tout, c'est pas toujours tout rose, hein. Mais il n'y a jamais eu cette impression où à Auteuil, ils savaient mieux que moi. On m'a jamais même quand il y a d'autres personnes qui viennent, parfois il y a des directeurs, en fait, on le sait même pas. Ils se présentent avec leur prénom et ils viennent comme ils sont. Et ils savent pas forcément mieux que nous. Donc c'est ouais. Il y a vraiment ce non jugement et cette bienveillance qu'on trouve pas, enfin, que j'ai pas trouvé ailleurs.
Parce que la mère ton cake.
Ah forcément, ça me.
Ça vous parle.
Bah oui, ça me parle et ça me fait plaisir d'entendre ces mots-là dans la bouche de Sonia parce que c'est ce qu'on essaye de faire. C'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Sonia l'a mentionné hein, dans une. Alors. Une maison d'enfants à caractère social, une MEX, c'est un lieu où sont accueillis les enfants qui relèvent de la protection de l'enfance.
Donc ils ne peuvent pas rester avec leurs parents.
Voilà, qui pour une raison X ou Y ne peuvent pas rester avec leurs parents de façon temporaire le plus souvent. Et donc on peut avoir en tête que ces enfants-là ont tous subi de la maltraitance de la part de leurs parents, ce qui est faux. Voilà, ce sont des cas limités et qu'on voit très souvent que les enfants qui sont placés là, évidemment, leurs parents vivent dans des situations beaucoup plus souvent de précarité. Ce qui fait, et donc même, c'est ce que je disais tout à l'heure, même dans ces lieux-là, et Sonia l'a mentionné, on cherche à... travailler avec les familles. On cherche à restaurer le lien avec les enfants. C'est un de nos objectifs majeurs. On voit dans le travail qu'on a fait pour construire le petit livre de plaidoyer d'apprenti d'hôtel que vous avez sans doute vu. On a, je vous l'ai dit, interrogé des enfants, des familles. Et ce qu'ils nous ont tous dit, c'est que même quand c'est difficile, la famille, c'est le lieu qui compte le plus pour eux. Donc on doit effectivement prendre ça en considération et nous, dans notre travail, faire en sorte que ces liens-là se restaurent, quelles que soient les ruptures qu'il y a eu, quel que soit ce qui a pu abîmer ce lien.
Elisabeth Michel, on l'a dit, c'est en 2009 que vous avez créé la première maison des familles avec la Fondation Apprenti d'Auteuil et le Secours catholique. Est-ce que vous avez et donc maintenant, il y a des maisons des familles un peu partout en France. Est-ce que vous avez l'impression que depuis 2009, ça y est, la conscience de la nécessité, l'urgence de soutenir les familles, ça y est, ça commence à prendre ? Les choses ont changé ?
Oui, je pense que les choses ont changé. Tout n'est pas fait, hein, mais les choses ont évolué. Enfin, pour moi, la CNAF, par exemple, aujourd'hui, enfin, recentre.
C'est la Caisse nationale des allocations familiales. La
CNAF. Merci beaucoup de traduire. Recentre de façon très forte son action sur la question du soutien de la parentalité, parce que je pense qu'on a bien conscience aujourd'hui, en fait, que soutenir les parents, en fait, c'est aider les enfants d'aujourd'hui, mais les adultes de demain, et que ça, c'est vraiment une priorité absolue. Est-ce que tout est fait aujourd'hui? Certainement pas, parce que le chantier est immense. Mais je pense qu'il y a une sorte de prise de conscience, qu'il y a des initiatives multiples qui se prennent. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir comment aujourd'hui, enfin, un certain nombre de services viennent rencontrer, par exemple, les maisons des familles pour essayer de comprendre, en fait, comment on peut accompagner au mieux des familles en situation de précarité dans l'éducation de leurs enfants.
Pascal Lemaire-Tonquec, est-ce que tout est fait pour les familles aujourd'hui? On a un nouveau gouvernement depuis 2 jours. Il n'y a aucun ministre ou secrétaire d'État avec l'intitulé famille dans son poste. C'est un regret?
C'est sûr que la question, est-ce que tout est fait? Non, tout n'est pas fait. Il y a eu des avancées. Hein. Il y a eu des avancées avec la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, avec ce que vient de citer Elisabeth sur une ligne de financement pour ces dispositifs un peu spécifiques qui n'étaient pas reconnus jusque-là en tant que tels, donc comme les maisons des familles, mais après il y a plein d'autres lieux de ce type-là, donc de reconnaissance de l'importance de ces lieux-là. Donc tout ça sont des progrès. On pourrait effectivement largement souhaiter que cette question du travail auprès des familles, de l'accompagnement à la parentalité soit portée au niveau ministériel ou interministériel, parce que c'est quelque chose de très transversal. On a cité tout à l'heure, j'ai cité les questions de logement, de garde d'enfants, on n'a pas beaucoup parlé des crèches, mais les crèches sont des lieux aussi, et nous on cherche à promouvoir le fait que dans les crèches, quand on confie son petit enfant, donc moins de 3 ans, c'est évidemment un lieu où là aussi il peut se passer plein de choses sur l'accompagnement des parents. Tout ça, ça doit être poussé, le lien avec l'école, etc., de manière extrêmement transversale. Ça concerne tout le monde et à plein d'étapes de notre vie.
Vous parliez des crèches, peut-être redire l'injustice du système en France où pour pouvoir mettre son enfant en crèche, il faut avoir un travail.
Oui, alors évidemment, les crèches, elles ont été créées pour ça, à l'origine. Donc,
pour permettre aux femmes d'aller travailler.
Voilà, elles sont adaptées à ça. Et puis, elles sont d'abord des lieux de garde d'enfants. Nous, effectivement, on pousse vraiment le fait de notre plaidoyer que les crèches deviennent aussi des lieux d'accompagnement des parents. Et c'est quelque chose... Alors, ça bouge, hein. Ça bouge vraiment sur cette question-là. Il n'y a largement pas encore assez de lieux qui permettent ça. Mais ça bouge et je vais vous passer les détails techniques, mais ça devient possible, par exemple, d'accueillir des enfants sur des plages horaires qui ne sont pas des plages horaires classiques. Ça devient possible d'accueillir des enfants en crèche sur des durées plus limitées, ce dont ont souvent besoin des mères qui ne travaillent pas. Elles n'ont pas forcément besoin de laisser leur enfant toute la journée, mais par contre, à des moments où elles ont besoin de se ressourcer, de faire autre chose, d'aller à un entretien, de pouvoir aussi mener leur vie de femme qui peut chercher un travail, de femme qui a besoin de, d'aller voir une amie, de, voilà, d'avoir une activité, etc. Donc, ça, le système des crèches évolue vers ça, mais là, il faut vraiment pousser beaucoup plus loin, c'est clair.
Et Elisabeth Michel, on a peut-être quand même besoin d'une révolution dans le monde de la petite enfance, de l'accompagnement des familles?
On a encore besoin, comme le disait Pascal Lemaire-Toquet, en fait, le chantier est immense. Et donc, on a encore beaucoup besoin, en fait, de réfléchir ensemble, de trouver des structures innovantes pour permettre à un maximum, par exemple, d'enfants avant 3 ans, de pouvoir rencontrer d'autres enfants, de faire de premières expériences de socialisation avant de rentrer à l'école. Ça c'est un élément tout à fait essentiel. Quand on sait aujourd'hui qu'un enfant qui issu d'une famille en situation de précarité a 400 mots de moins qu'un autre enfant quand il rentre à l'école à 3 ans, il paraît absolument essentiel en fait de créer des espaces où les enfants et les parents vont pouvoir être baignés de mots, rencontrer d'autres enfants, commencer à se socialiser. Bien sûr, ça c'est absolument essentiel.
Pascal Lemaire-Toquet, je crois que vous voulez rajouter quelque chose.
Non, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et un point effectivement à rajouter, si on parle de politique publique, c'est qu'évidemment, tous ces lieux qui sont aux interstices finalement des lignes de politique publique, on a les maisons des familles.
On a besoin d'être soutenu financièrement.
Bien sûr.
Ouais. C'est pas le cas actuellement ?
C'est le cas, mais ça reste fragile. Ce sont des dispositifs qui sont fragiles. Et quand on parle de l'accueil des parents dans les crèches et du travail qu'on peut faire dans une crèche auprès des parents, ça aussi, c'est un travail qui a besoin d'être soutenu en tant que tel. Et voilà. Donc.
Sonia Benma, on a un nouveau gouvernement. Si vous aviez un conseil à leur donner pour mieux accompagner les familles, une réforme à proposer, vous qui êtes au Conseil national des politiques de lutte contre la précarité et l'exclusion sociale, qu'est-ce que vous auriez envie de leur souffler à l'oreille ?
Ben, de nous écouter. C'est finalement, qui sait mieux que les parents ce dont ils ont besoin ? C'est aussi ça, c'est de se dire, voilà, si on est écouté, entendu, peut-être que forcément les besoins seront plus en adéquation avec les mesures seront plus en adéquation avec les besoins.
Et ben voilà, un mot pour conclure, Pascal Lemaire-Toquet.
Ben pour conclure, j'avais envie effectivement de dire que notre principal enjeu, c'est de changer le regard que l'on porte sur les familles pour leur permettre d'avoir toute cette capacité d'agir avec leurs enfants.
Elisabeth Michel, un mot de conclusion ?
Un mot de conclusion, c'est de croire que l'ensemble des parents, comme vous le disiez en début d'émission, font toujours au mieux de ce qu'ils peuvent.
Les parents démissionnaires, ça n'existe pas, on le redit ?
Oui.
Ah, les parents démissionnaires, ça n'existe pas. Les parents qui ont des difficultés avec leurs enfants, ça existe. Enfin, ça concerne, à mon avis, tous les parents. Et se dire collectivement qu'on fait toujours au mieux.
Et ben, ça sera le mot de la fin, je crois.
Le mot de la fin pour
à toutes les trois
pour cette émission.
On fait toujours mieux.
Merci Pascal Lemaire-Toquet d'avoir été avec nous. Merci Elisabeth Michel et Sonia Benmaha. Dans un instant, on va poursuivre Stéphanie avec Apprenti d'Auteuil, avec toutes ces initiatives ici et là qui existent, tous ces dispositifs qui ont pu être mis en place depuis quelques années, qui permettent d'accompagner les parents, les enfants aussi, bien sûr. On va faire un petit tour de France dans un instant avec nos invités qui vont nous rejoindre et puis toujours avec vos témoignages, vos réactions. Dites-nous si vous avez pu déjà rencontrer des difficultés dans l'éducation de vos enfants. Voilà, venez témoigner, nous dire comment vous en êtes sortis, si c'est grâce à Apprenti d'Auteuil, si c'est grâce à des associations aussi qui un travail formidable sur le terrain. On vous attendait maintenant au 04 72 38 20 23. Vos messages par mail direct@rcf.fr et puis dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. Et puis on parlera aussi d'une émission sur RCF que vous connaissez bien, Y a pas de parents parfaits, YAP, avec Anne Kerliot. Je vous dis à tout de suite sur RCF.